Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour Muriel, bonjour à tous. Suite de notre thème aujourd'hui sur les amphibiens.
Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Eh bien oui, c'est de saison. Peut-être que vous avez déjà croisé une grenouille sur la route ou entendu le doux chant d'un crapaud, car c'est bientôt la saison de reproduction.
En hiver?
Oui, au tout début du printemps, pour la grenouille rousse et le crapaud commun qui sont les plus précoces.
Alors pourquoi nous les voyons sur la route en ce moment?
Eh bien on peut les voir parce que déjà c'est une zone de chasse pendant la belle saison, en fait, le macadam emmagasine la chaleur et du coup ça fait venir des insectes, donc ça attire des amphibiens. Mais aussi parce que ils peuvent effectuer des migrations, comme les oiseaux, les insectes qui effectuent des grosses migrations, c'est plus petit pour les amphibiens, mais ils font quand même des trajets pour rejoindre leur zone de reproduction. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, ils passent la majeure partie de leur temps sur la terre ferme et ils ne vont dans l'eau que pour trouver un partenaire et pondre. En fait, l'hiver, ils se protègent du froid en se trouvant ce qu'on appelle un gîte hivernal, donc une souche d'arbre, un ancien terrier. Et puis quand les températures remontent doucement, que les jours rallongent, ils sentent un appel irrésistible de l'eau et il va falloir entamer du coup un trajet vers leur milieu aquatique qui est souvent celui de leur naissance d'ailleurs. Et donc ils parcourent plusieurs kilomètres et peuvent être amenés à traverser une ou plusieurs routes.
J'imagine que ça doit poser des problèmes importants.
Et oui, car la période de reproduction représente déjà un parcours du combattant pour ces animaux. Ils sont très petits, ils peuvent parcourir des kilomètres, donc on imagine déjà proportionnellement pour nous ce que ça représenterait. Et puis ils dépensent énormément d'énergie pour se déplacer. Ils mangent peu parce qu'ils connaissent pas leur territoire, le territoire qu'ils traversent. Ils sont beaucoup plus vulnérables car plus exposés aux prédateurs, prédateurs qui profitent de soudain toute cette affluence de nourriture en cette fin d'hiver. Donc la météo peut aussi leur jouer des tours. Si le réchauffement déclenche leur activité, ils peuvent aussi se faire piéger par une vague de froid et là certains peuvent mourir s'ils n'arrivent pas à se protéger assez vite. Et par là-dessus, du coup, vient s'ajouter le trafic routier. Donc les plus touchés sont les espèces qui parcourent les plus grandes distances, le crapaud commun et la grenouille rousse. Sachant que voilà, ils se dépêchent pas de traverser une route, hein, ils sont pas conscients du danger, donc en gros, en moyenne, un crapaud, une grenouille, ça met 15 minutes à traverser une route.
Oui, c'est vrai qu'on voit souvent des crapauds écrasés sur la route, contrairement à d'autres animaux. Des solutions existent?
Oui, il y a plusieurs possibilités. On peut installer en fait sur les points sensibles des crapauducs. Alors le terme peut faire sourire, un crapauduc c'est en fait une installation permanente où on va creuser un tunnel sous la route en faisant des fossés sur les côtés pour les guider dans ce tunnel-là. Donc c'est quand on identifie une zone rouge, quoi, un endroit où ils traversent tous parce que la topographie fait qu'ils traversent à cet endroit-là. Ou alors on peut aussi mettre des dispositifs temporaires en place, c'est-à-dire que justement pendant la saison de reproduction on va mettre en place des barrières, des filets de chaque côté de la route qui va les stopper. Et on enterre des seaux régulièrement, puisqu'ils vont bloquer contre la barrière, ils vont suivre le filet, et ils vont tomber dans des seaux qui auront été enterrés. Et là, il faut qu'il y ait des gentils bénévoles qui viennent tous les matins pour récolter les animaux qui sont tombés dans les seaux et les faire traverser.
D'accord. Parce voilà. Que ça peut être un piège pour les prédateurs aussi, ces seaux.
Un piège ou une...
Oui, un piège qui se referme sur eux finalement, parce qu'ils sont coincés dans un seau, un prédateur arrive et...
Voilà, ben ça c'est justement les personnes qui doivent gérer ces dispositifs, qui doivent être vigilants en fait à passer régulièrement, à passer tôt le matin. Et c'est vrai que parfois il y a des prédateurs nocturnes qui trouvent là le spot. Donc ça c'est arrivé que certains blaireaux tombent sur un dispositif. Après, par rapport à la quantité d'animaux qui traversent, ce qui est assez important. Ils traversent pas tous d'un coup non plus. Donc voilà, l'impact est souvent limité. Après, quand il y a des très très grosses vagues de migration, on peut venir aussi en pleine nuit parce que les seaux peuvent déborder. Enfin voilà, ça peut être assez impressionnant.
Alors une fois qu'ils ont franchi la route, qu'est-ce qui se passe?
Et ben du coup, direction l'eau, c'est la dernière ligne droite. Alors parfois, des couples se forment avant d'arriver à l'eau. C'est-à-dire que si un mâle rencontre une femelle sur le trajet de la mare, de l'étang, et ben il va sauter sur sur le dos de la femelle, il va s'y accrocher et la femelle qui est beaucoup plus grosse va le transporter sur son dos jusqu'au milieu aquatique. Donc il aura trouvé le bon plan, mais c'est aussi parce que en fait la femelle est plus grosse, elle fait une plus grosse dépense énergétique pour se reproduire, donc elle se reproduit pas tous les ans. Elles y vont que un tous les deux ou trois ans. Alors que les mâles y vont tous les ans. Donc ce qui fait que sur le milieu de reproduction, on a toujours beaucoup plus de mâles que de femelles. Donc l'enjeu pour les mâles, c'est de trouver une femelle avec laquelle se reproduire. Donc en gros, dès qu'ils en trouvent une, ils sautent dessus et ils la lâchent pas.
Alors justement, à part ces feignasses qui trouvent une femelle pour se faire amener jusqu'au bord de l'eau, comment ils font pour gagner les faveurs d'une femelle ?
Eh ben, ils arrivent avant. Déjà, ils sont plus précoces. C'est pour ça que souvent, on voit des petits crapauds. Hein. Les petits, ce sont les mâles. Les gros, ce sont les femelles. Ils arrivent avant, ils prennent les meilleures places et ils se mettent à chanter. Donc en fait, c'est un chant nuptial qui a pour but de montrer ses qualités et d'attirer les femelles.
Et tous les ans, si bien chantent ?
Alors, ils émettent tous des sons, plus ou moins audible et joli et chantant. Mais là, souvent, on confond crapaud et grenouille. C'est-à-dire que le chant de la grenouille est assez fort, saccadé, assez rauque. C'est le chant qu'on a en tête. Donc, on entend ici, derrière nous, le chant de la grenouille verte, qui est assez fort, qui peut porter assez loin. Tandis que le chant du crapaud, lui, est beaucoup plus doux. Donc là, c'est le chant du crapaud commun. Il faut déjà se rapprocher un peu plus du milieu aquatique pour l'entendre, et c'est vraiment un joli chant. D'autres ont des chants assez particuliers. Le sonneur à ventre jaune porte bien son nom, puisqu'il a un chant assez faible et assez sourd. Et alors lui, c'est celui qu'on entend maintenant, il a vraiment un chant très faible. Il faut vraiment s'approcher, et lui, il pond souvent dans des flaques, des ornières, donc c'est des tout petits milieux, et il faut s'approcher et être à une dizaine de mètres pour l'entendre. Et puis le dernier de nos choix là pour cette chronique, c'est l'alite accoucheur qu'on peut entendre chez nous, qui est proche des villages et des maisons. Et lui, il a un chant très très doux, on dirait presque une flûte. Voilà, donc c'est vraiment un crapaud qui fait ce chant. On pourrait confondre avec un oiseau. Si vous entendez ça le soir, c'est l'alite.
Oui, ça ressemble pas du tout, là, les deux, trois sons que tu nous fais passer à des chants de crapauds, ouais, c'est fou.
Ouais.
Et comme pour les oiseaux, on peut reconnaître les espèces en les écoutant?
Voilà, on peut exactement se faire l'oreille comme pour les oiseaux. Il existe des très bons guides, voilà. Après, les tritons et les salamandres émettent plutôt des cris sous l'eau qu'on entend peu. Donc là, on peut reconnaître grenouille ou crapaud, mais pas triton salamandre, c'est trop compliqué.
Alors c'est donc la saison, on peut les entendre si on est attentif?
Voilà, mais surtout la nuit, car les amphibiens sont nocturnes, alors sauf pendant les quelques heures de pic de reproduction où ils sont vraiment là excités au maximum.
Alors si nos crapauds ou grenouilles ont réussi à surmonter les obstacles, ont échappé au trafic routier, ont trouvé un partenaire, comment ça se termine?
Et bien après avoir chanté et trouvé un lieu de ponte, ils vont accrocher leurs œufs dans la végétation ou les laisser flotter. Là aussi vous avez peut-être déjà vu dans un étang des gros amas d'œufs, des grosses boules, ça c'est les grenouilles, notamment la grenouille rousse, alors que le crapaud va plutôt faire un filament qui va accrocher dans la végétation. Et puis les adultes vont quitter l'eau. Les têtards éclosent au bout de 11 à 15 jours et se métamorphosent entre un mois et demi et trois mois, ça dépend de la ressource alimentaire, de la température. Et si tout va bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas de manque d'eau, s'il n'y a pas de manque de nourriture, s'il n'y a pas trop de prédateurs, de pollution, de destruction directe, ils sortiront de l'eau pendant l'été et reviendront se reproduire 3 à 4 ans plus tard.
Comment ça, si tout se passe bien ?
Eh ben, les amphibiens sont les animaux les plus menacés au monde et ils tiennent une place extrêmement importante dans l'équilibre des écosystèmes. Donc on verra la semaine prochaine pourquoi ils sont si fragiles et comment les protéger.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'ALO.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'ALO.